Commençons par la prière. Seigneur, ta parole est sainte. Ta parole ne change pas. Ta loi est sainte. C'est nous qui sommes pécheurs et nous n'arrivons pas à obéir à ta loi. Et ta parole le dit, c'est quelque chose qui est inné en nous, mais c'est pour ça que tu nous appelles à cette nouvelle vie en Christ. Cette nouvelle vie qui passe par une mort à nous-mêmes, et c'est une mort qui est déjà accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Tu nous appelles à entrer dans cette mort déjà accomplie, pour que Christ, en tant que notre vie, prenne toute la place. Ta parole le dit, ta parole est vivante, et je te prie de la rendre encore plus active dans notre vie de tous les jours. C'est pourquoi je remets entre tes mains ces paroles que nous allons partager ce matin. Que ces paroles ne se contentent pas d'alimenter notre savoir, notre intellect. C'est utile, mais Seigneur, que cette parole touche notre cœur, notre être intérieur, celui que tu as créé dès l'origine, qu'il puisse recevoir ta parole, ta nourriture, et que cette parole soit pratique dans notre vie, pas comme des règles que nous appliquons tous les matins, mais comme une nourriture, comme l'oxygène qui nous accompagne dans notre vie spirituelle. Amen. Alors ce matin, comme à notre habitude, nous allons revenir sur cette communion avec le Seigneur, à laquelle tout chrétien, toute église est appelée. Nous ne sommes pas appelés à vivre une religion. Je rappelle toujours le mot religion, une invention humaine. C'est quelque part une morale issue de la parole de Dieu. Une morale juive, une morale musulmane, une morale chrétienne, si vous voulez. On se base toujours sur un livre saint, où on lui attribue la sainteté qu'on veut, et on crée une morale. Et donc cette morale devient comme un cahier des charges. On ne lui donne pas le mot cahier des charges. On peut l'appeler règlement intérieur, ce que vous voulez, méthode de conduite d'un chrétien. Et c'est à travers ce canevas, ce cahier des charges, on se fabrique des lunettes. Des lunettes spirituelles. Et quand on regarde autour de nous, on regarde à travers ce filtre et on se donne le droit de dire, cette personne est chrétienne, celle-là, elle ne l'est pas. Parce que j'ai créé mon canevas, mais je ne le dis pas un canevas. Je suis tellement convaincu que c'est la parole de Dieu que je m'érige comme l'égal de Dieu. Parce que le seul qui juge, c'est Dieu. Et si je me permets de juger les autres, c'est consciemment ou inconsciemment, je me mets au niveau de Dieu, un concurrent de Dieu, pour dire, maintenant je peux dire, celui-là va aller au ciel, celui-là n'ira pas au ciel. Quelle insulte, encore une fois, vis-à-vis du Créateur. Quand c'est inconscient, je peux le comprendre. Quand c'est conscient, il vaut mieux demander pardon à Dieu. Inconscient, le Seigneur peut-être un jour nous dira, « Regarde, t'as pensé ça, mais il ne fallait pas le penser. » Mais quand c'est conscient, et quand ça vient de nos dirigeants spirituels, c'est pour cette raison que je dénonce ceux qui dirigent ce pouvoir politique au niveau mondial. Qu'on l'appelle Vatican, qu'on l'appelle ce que vous voulez, mais je parle de toutes les religions. Ces gens-là rendront des comptes devant Dieu. Et je ne veux pas être à leur place. L'histoire nous a appris qu'un chrétien, c'est souvent celui qu'on ne pense pas. C'est pour ça que j'aime bien cette prière qui venait de mon frère. Je l'avais entendue, dit « Seigneur, surprends-moi que je serai au ciel. » Dans le sens, même ceux que je croyais qu'ils ne sont pas chrétiens, en fait, ils le sont. Et ceux que je croyais être chrétiens, mais ils ne le sont pas. Chacun sera jugé selon ses œuvres, et c'est une relation individuelle entre chaque être humain et Dieu. Et si nous avons reçu la grâce, la véritable grâce de Dieu, la première chose, c'est que je regarde avec amour celui qui ne croit pas, celui qui n'est pas comme moi, celui qui est égaré. C'est la première preuve d'un chrétien gracié. Si je pense être gracié, et du jour au lendemain, je commence à porter un jugement sur mon frère, sur ma sœur, sur telle église, c'est que je n'ai rien compris à la grâce. Parce que la grâce me dit, je t'ai perdu, je ne peux rien faire. Je t'ai perdu. Mais c'est quelqu'un qui est venu me sauver. Pas de moi-même. Il est venu me sauver. Alors, de quel droit, maintenant que je suis sauvé, je peux juger l'autre pour le responsable de dire, s'il n'est pas chrétien, c'est de sa faute, ou s'il n'est pas chrétien, il va aller où? Ça, c'est une affaire entre Dieu et l'homme et la femme. Le plus grand exemple qu'on peut avoir, c'est le brigand qui était crucifié à côté du Seigneur. Ceux qui le regardaient, tous en train de dire bien fait pour lui. Il ira en enfer. Bien que cette expression, on peut l'étudier encore le mot enfer, cette expression qu'on a inventée dans le langage occidental. Bon. Et pourtant, cette personne qui est jugée par tout le monde, aux yeux du monde, le Seigneur lui a dit, ben, ce soir, tu seras avec moi. Et nous, comme le monde, on se permet de juger. C'est dans cet état d'esprit que j'ai parlé quand j'ai dit que nous n'avons aucunement le droit de se regarder nos frères et sœurs à travers les dénominations évangéliques, protestantes, que sais-je. Les chrétiens qui souffrent dans le monde aujourd'hui, ce ne sont pas des évangéliques, mes frères et sœurs. Je le répète, les chrétiens qui souffrent aujourd'hui, ce ne sont pas les évangéliques. Et ceux qui vous disent ça, c'est des menteurs. Ceux qui souffrent aujourd'hui, ce sont des chrétiens coptes. Eh oui, des chrétiens d'Orient. Ce ne sont pas des évangéliques. En tout cas, dénomination. C'est les chrétiens d'Égypte qui vivent les attentats. C'est les chrétiens d'Irak et de Syrie qui ont subi les massacres du Daesh. C'est ces chrétiens qui souffrent. Ce ne sont pas de dénomination évangélique. Ce sont des chrétiens qu'on appelle conventionnels. Appelez-les coptes, appelez-les chrétiens d'Orient, catholiques, ce que vous voulez. Ce sont des frères et sœurs qui souffrent. Est-ce que nous pouvons les juger pour dire que ce ne sont pas des chrétiens? Parce qu'au-dessus, il y a la dénomination. Bien que je dénonce personnellement tout ce pouvoir religieux, qu'on peut l'appeler comme vous voulez, anglican, catholique, ce qu'on veut, ceux-là rendront des comptes. Mais les simples chrétiens qui sont nés, qui ont donné leur cœur au Seigneur, reconnaissant que le Seigneur est mort pour eux, reconnaissant la divinité du Fils, c'est-à-dire ce que j'appelle la confession de base, ce sont des membres de l'Église. Et je prends le risque, ce n'est pas un risque pour moi, même si je suis critiqué, même si on me dit, il n'a rien compris à la chrétienté, je préfère mon état. C'est ça, l'Église, c'est ça l'amour de l'autre. Et si nous arrivons à ce jugement de l'autre, c'est que quelque part, nous sommes des Corinthiens. Vous savez, l'église de Corinthe, c'était une église religieuse. C'était des femmes, des hommes et des femmes qui vivaient dans une église, qui ont reçu la grâce. Ils ont écouté l'apôtre Paul. Ils sont convertis, ils sont baptisés. Et pourtant, l'apôtre Paul leur dit, vous êtes des chrétiens charnels, parce qu'ils raisonnent, comme je viens de vous dire là. Je juge l'autre. Je me crée des règles. C'est dans l'apparence. Je veux concilier ma vie dans le monde et ma vie avec le Seigneur. En fait, je fais le compromis. Je profite de mon vivant tout en préparant mon éternité. Voyez? Donc c'est vraiment le compromis. Et bien, l'apôtre Paul les appelle les chrétiens charnels. Les chrétiens charnels qui ne savent pas faire la différence entre l'âme et l'esprit. Ils confondent les deux. Pour eux, l'esprit et l'âme, c'est la même chose. D'ailleurs, aujourd'hui, la science ne reconnaît pas l'esprit. On dit que l'être humain et corps et âme. Et l'âme, c'est l'intuition, etc. Sans se rendre compte, on se contente seulement de dire que nous sommes corps et âme, je comprends bien qu'on dise qu'on descend du singe. Donc je les comprends. Et je les comprends parce que comme ils ne croient pas qu'il y a l'esprit, ben ils ne pourront dire que nous descendons du singe ou du poisson, que sais-je. Puisque nous sommes des animaux, Dieu nous dit, nous sommes plus que ça. Les animaux étaient créés quelques jours avant dans la création. L'être humain est créé le dernier jour, le sixième jour, juste avant le septième jour, le repos. Il y a bien une raison, parce que nous avons aussi l'esprit. Mais il faut savoir qu'un chrétien peut vivre sa vie chrétienne juste avec son âme. Mais nous sommes appelés à vivre sa vie chrétienne aussi dans l'esprit. D'où notre thème aujourd'hui, la séparation de l'âme et de l'esprit. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Je lis ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez, donc ce verset, on le connaît. Je lis juste un petit passage. Jusqu'à partager âme et esprit. Je n'ai pas besoin de vous dire, de faire une démonstration, que maintenant il est bien clair qu'il y a une séparation entre l'âme et l'esprit. Hein? Donc tout le monde comprend que séparer âme et esprit, c'est que ça veut dire qu'il y a l'âme et l'esprit. Mélanger les deux, ou dire qu'il n'y a que l'âme, il n'y a pas l'esprit, c'est qu'il y a un problème. Ben, l'apôtre Paul nous dit bien âme et esprit. La séparation de l'âme et de l'esprit est de la plus haute importance pour la croissance spirituelle d'un chrétien qu'aujourd'hui. On perd de plus en plus. Nous avons des églises charnelles, des églises corinthiennes. Nous avons Corinthe partout. Alors que le Seigneur, parce que nous sommes des chrétiens charnels. Parce que nous voulons satisfaire, je dirais, je vais utiliser un mot qu'on utilise à l'université, on veut fidéliser la clientèle. Vous voyez, je dis. Ben oui, on veut fidéliser la clientèle, on veut le nombre, on veut les gens restent, il faut qu'ils financent, il faut qu'ils donnent la dîme, etc., pour que ça fonctionne. Donc on va satisfaire le charnel, l'être humain. Comment? Ben, ça peut aller jusqu'à la musique, pourquoi pas. Si on a des jeunes ici, ben je vais leur mettre du rock. Oui, c'est une façon de charnel. Si j'ai des chrétiens, ben je vais leur donner des paroles pour leur rappeler toujours, vous êtes sauvés, etc. Ben super, je ne les culpabilise pas. Je ne leur rappellerai pas l'œuvre de la croix que le Seigneur nous appelle aussi à suivre le même chemin de la croix. Je ne leur rappellerai pas qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ah, il ne faut pas dire ça. Si vous dites ça, Abdel, la grâce, elle est où? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ça veut dire que on n'ira pas tous au ciel? Ah, il ne faut pas dire ça. Hein, non, non, non. Il faut fidéliser la clientèle. La parole le dit. Prenez les paraboles des vierges, folles, vierges sages. Toutes des chrétiennes. Il y en a qui sont enlevées, d'autres pas. Il y en a qui avaient de l'huile. Le Saint-Esprit, l'Esprit. D'autres non, c'était charnel. Lisez Apocalypse. Les premiers versets, c'est marqué « Au vainqueur, je donnerai. Au vainqueur. » Ah bon, pourquoi il dit « au vainqueur » Il aurait dû dire à tout le monde, à tous les chrétiens. Oui, c'est des choses qui ne fidélisent pas. Mais ce n'est pas grave. Le Seigneur, c'est-à-dire, connaît ses enfants et nous appelle à suivre le chemin. Comment pourrait-on aspirer aux choses spirituelles et croître par elles si nous ne sommes pas capables de distinguer l'âme et l'esprit? La parole de Dieu nous décrit à plusieurs endroits les différents états, aussi bien de notre âme que de notre esprit. Il nous est parlé d'hommes attristés dans leur âme et par moments d'hommes attristés dans leur esprit. Oui, on utilise âme, esprit. Donc, on peut être attristé dans son âme, comme on peut être attristé dans son esprit. Ce n'est pas la même chose. Des personnes qui se réjouissent dans leur âme et des personnes qui se réjouissent dans leur esprit. Donc, on peut se réjouir dans son âme, comme on peut se réjouir dans son esprit. Mais ce n'est pas la même chose. On peut dire, ah, j'ai la paix, je peux avoir une paix charnelle, mais ça se peut que je n'ai pas la paix spirituelle. Ce n'est pas la même chose. Nombreux sont ceux qui concluent à partir de tels versets que l'âme et l'esprit sont sûrement la même chose. Mais c'est comme si l'on disait, tu peux manger et moi, je le puis aussi. Ça veut dire que tu manges, que je mange, c'est la même personne. Mais non, on est deux personnes différentes. Car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Ce verset démontre clairement que l'esprit et l'âme peuvent être séparés l'un de l'autre et qu'en conséquence, ils ne sont pas la même chose. L'âme, c'est l'âme. L'esprit, c'est l'esprit. Dans toutes les religions, dont celle de laquelle je viens, il n'est pas question d'esprit. Donc on vit sa religion dans l'âme. Et on voit les catastrophes. Le deuxième chapitre de la Genèse nous montre que Dieu créa l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et là, l'homme devient une âme vivante. Et on a passé pas mal de temps, il y a un an ou deux, sur l'expression souffla. Donc on a dit que ce souffle, quand Dieu souffle, ça c'est la culture hébraïque, quand Dieu souffle dans le premier être humain, il crée un vide en lui. Le premier souffle. Il souffle en lui, il devient une âme vivante. Dieu, en soufflant dans l'être humain, c'est symbolique, il a créé un vide. Ce vide, il est destiné à être rempli. Si Dieu crée un vide, il ne peut être rempli que par quelque chose qui vient de lui. On est d'accord? Dieu ne va pas créer un vide en l'homme et il dit à l'homme, tu peux le remplir toi. Non, il crée un vide en l'homme et ce vide, il est destiné à être rempli par quelque chose qui vient de Dieu, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Et ce vide nous attire vers notre Créateur. C'est pourquoi je le crois sincèrement au fond de mon cœur. Tout être humain, né tout être humain, est attiré vers son Créateur. Seulement, il ne trouve pas le mot. Dès qu'on naît, on est attiré vers notre Créateur. Parce que nous avons ce vide qui est créé en nous, mais seulement il est vide. Mais il est destiné à être rempli par le Saint-Esprit. Et s'il n'est pas rempli par le Saint-Esprit, c'est là qu'on dit, nous avons raté notre raison d'exister. Et la parole nous dit, à quel moment il s'est rempli? Il a fallu attendre le Nouveau Testament pour voir ce vide se remplir. Et c'est le Seigneur Jésus qui l'a fait lui-même. Après sa résurrection, et quand il a parlé à ses disciples, il leur a dit, quand il les a envoyés, faites toutes les nations des disciples, avant il leur a dit, il souffla sur eux, disait, il souffla sur eux, et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alors faites, vous voyez le cheminement? Le premier être humain, Dieu souffla en lui, il a créé un vide. Ce vide ne peut être rempli que par le Saint-Esprit. Il a fallu attendre le Nouveau Testament pour savoir ce vide doit être rempli par l'Esprit Saint. C'est pour ça, en tant que chrétiens, nous sommes appelés non seulement à recevoir cet esprit que nous avons reçu à nouvelle naissance, mais à être dirigés, conduits par cette vie dans l'esprit. L'esprit de l'homme, c'est-à-dire ce vide qui est en lui, aspire au Créateur. Mais quand l'homme a succombé au mensonge du serpent, du diable, qui a joué sur ses désirs sensoriels, parce qu'il a joué sur la vue, sur l'odorat. Regardez, l'arbre est beau à voir, goûter. On peut jouer sur les sensations, les cinq sens. Et bien l'homme a succombé parce qu'il avait un vide. Il n'y avait pas l'esprit pour qu'il puisse succomber à cette tentation. Oui, je prends le risque de le dire. Faites le parallèle, encore une fois, entre la tentation d'Adam et la tentation de Jésus dans le désert. C'est exactement la même chose. Il y en a un qui a succombé, il avait un vide. Le deuxième, il avait l'Esprit de Dieu. Il a gagné. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes perdants d'avance. Même si nous fournissons les meilleurs efforts du monde. Toutefois, sitôt qu'un homme naît de nouveau, je l'espère, c'est votre cas, c'est notre cas, son esprit reprend vie. Parce que ce vide est rempli par l'Esprit Saint et c'est notre situation. Dès que nous confessons devant le Seigneur notre, je dirais, égarement, dès que nous naissons de nouveau, c'est-à-dire nous acceptons que notre vide, le vide que Dieu a créé en nous, l'Esprit nous remplit, nous sommes des êtres nouveaux. Alors à ce moment-là, nous sommes réconciliés avec le Seigneur et nous pouvons dire qu'en Christ, nous pouvons traverser les épreuves dans la joie. C'est la raison pour laquelle nous avons tellement besoin de la parole de Dieu afin que justement l'âme et l'esprit puissent à nouveau être séparés pour que l'âme soit au service de l'esprit. Nous devons être gouvernés par l'esprit qui prend possession de notre âme. Ça ne veut pas dire qu'on va disparaître. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre de nos dons. Pas du tout. Nous sommes comme d'habitude. Seulement, nous ne satisfaisons pas les besoins de notre âme, mais l'âme est le service de Dieu. Et au service de l'esprit. Vu de l'extérieur, l'âme et l'esprit paraissent semblables. Cependant, ils appartiennent chacun à des domaines tellement différents. Leur source est bien distincte. Admettons par exemple que nous soyons aujourd'hui joyeux. Admettons-le, nous sommes joyeux. Leur source, nous sommes joyeux. Cette joie vient de notre âme ou de notre esprit? Nous devons poser la question en tant que chrétiens. Notre joie vient de l'âme, de notre esprit. Il ne s'agit pas de savoir si nous sommes joyeux. Non, il faut savoir quelle est la source de notre joie. Quand nous sommes tristes, d'où vient cette tristesse? Vous savez que dans la Bible, il y a une sainte tristesse? Heureux les affligés, heureux ceux qui souffrent, car le Dieu leur parlera. Heureux ceux qui souffrent, qui passent par l'épreuve, parce que ces gens-là, ses frères et sœurs, Dieu peut-être a permis qu'ils soient dans cette situation-là pour les rendre disposés à l'écouter. C'est pour ça qu'ils sont heureux. voyez la définition de la tristesse, comment on peut la voir? Quand nous sommes tristes, d'où vient cette tristesse? Vient-elle de notre âme, qui mène à la mort, à la destruction, même au suicide, au rejet, ou à autre chose? C'est que le Seigneur veut nous parler. Et là, on intègre une paix insondable qu'on ne peut même pas mettre des mots dessus. Dieu ne s'inquiète que d'une chose. Il ne s'inquiète pas de la joie ou de la tristesse. Il dit, la Bible, elle dit, pleurez avec ceux qui pleurent, il faut rire avec ceux. Non, ce n'est pas ça le plus important. Il s'intéresse à la source. Est-ce que ça vient de l'âme? Est-ce que ça vient de l'esprit? Est-ce que ça vient de nous-mêmes? Ou est-ce que ça vient de Jésus? Parce que Jésus est en nous, dans l'esprit. Un autre exemple que nous connaissons dans la Bible. Dieu avait promis un fils à Abraham à une époque où celui-ci était déjà très vieux et où il n'avait pratiquement plus d'espoir d'avoir une postérité. Il attendit longtemps, mais la promesse de Dieu ne s'accomplissait toujours pas. Ce qui est bien, ce texte, c'est que c'est un point commun entre les différentes religions. Donc on peut en parler. Voilà. Bien. Sa femme lui conseilla alors d'aller voir Agar, la servante. Ismaël est né de la servante, parce que l'épouse d'Abraham ne pouvait pas enfanter. Donc elle lui a dit, mais écoute, maintenant pour avoir des enfants, tu vas voir avec la serveuse, la servante. Et Ismaël est né. Par contre, la promesse de Dieu ne devait s'accomplir que 14 ans plus tard. Sarah donna naissance à Isaac. Finalement, quant à la signification des vies d'Ismaël et d'Isaac, les chapitres de la Genèse, je vous laisse lire les chapitres de la Genèse 15, 16, 17 et 21, ils vous relatent un peu l'histoire d'Isaac et d'Ismaël. Mais la question qui se pose, quel est le sens d'Ismaël et d'Isaac? Il a fallu attendre le Nouveau Testament en cours pour avoir l'explication spirituelle, le Nouveau Testament, pour avoir l'explication d'Ismaël et d'Isaac. Paul dit que l'un des fils est né selon la chair, mais que l'autre est né selon la promesse. Voilà ce qu'on nous dit la parole de Dieu. La parole dépeint Ismaël comme celui qui est selon la chair. C'est quoi cette chair? Nous voulons absolument avoir un fils, on va trouver une solution humaine. Allons-y. Ismaël. Celle qui vient de Dieu, l'être humain ne peut rien. Et pourtant, c'est celle qui s'accomplit, et c'est celle qui vient de Dieu, et c'est celle qui va donner la descendance jusqu'à Jésus, jusqu'à nos jours. Isaac est dépeint comme celui qui, selon l'esprit. Ismaël, c'est ce qu'un chrétien produit par sa propre intelligence. Ismaël, c'est quelqu'un qui produit par sa. Ça veut dire qu'on ne peut être des chrétiens Ismaël. Alors que nous sommes appelés à être des chrétiens Isaac. Isaac, en revanche, c'est ce que Dieu produit, c'est ce qui est issu de lui. Ismaël, c'est de l'homme, Isaac, c'est de Dieu. Donc, en tant que chrétien, on peut être des chrétiens charnels, des chrétiens Ismaël, alors que nous sommes appelés à être des chrétiens Isaac. Mais que veulent dire les expressions selon la chair ou selon l'esprit, aussi dans la parole de Dieu? La première décrit ce que nous faisons par nous-mêmes. C'est ça le chrétien charnel, nous faisons de nous-mêmes. La seconde, au contraire, exprime ce que Dieu fait à travers nous. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce sont deux mondes complètement différents. Dès le premier cas, nous pouvons faire naturellement la chose en étant complètement indépendants de Dieu et on peut s'attribuer le titre de chrétien. Quand ça dure quelques mois, quelques années, ça me paraît normal. Quand ça dure toute une vie, c'est grave. Nous sommes appelés à passer de l'état d'enfant à l'état de fils, mais ne pas rester toujours des enfants chrétiens. Cela montre que nous sommes des chrétiens psychiques, sensoriels, religieux, même si nous critiquons les autres de religieux. Parce que nous faisons les choses à partir de notre âme, c'est-à-dire selon la chair, de nous-mêmes, selon nos capacités. Alors dans ce cas-là, à quoi ça sert que le Seigneur nous crucifie avec lui? Nous voulons faire vivre notre nature alors qu'il est crucifié à la croix. En fait, nous sommes en train de décrocher notre nature de la croix pour la faire vivre, la foi chrétienne, alors que le Seigneur nous dit, mais non, elle est morte. Mais pourquoi vous l'avez fait vivre? Laissez-moi vivre en vous. Mais il existe une autre possibilité. Celle où je ne peux parler que lorsque Dieu parle. Je ne peux faire quelque chose que lorsque Dieu agit. Et le piège, c'est là qu'on me dit, mais je ne peux pas tout ça. Mais ça ouvre la porte, donc je peux de moi-même. Vous voyez? Le piège, où il est? Cela implique que je dois m'attendre à lui en toutes choses, que je sois complètement dépendant de lui. C'est ce que signifie être spirituel. La tâche est rude, elle est là, mais nous devons cheminer vers ça. Mais seulement contempler de dire « je ne peux pas y arriver, donc je vis charnel », ça c'est l'erreur, c'est le mensonge du diable. Il est loin, le chemin est dur, il est long, mais je laisse le Seigneur me conduire. Mais ne pas tomber dans le piège, je ne peux pas atteindre, donc je vis de mes propres moyens. C'est pourquoi dans tout ce que nous entreprenons, notre aspiration doit être de tout faire par le Seigneur et non par nous-mêmes. Ce désir doit être déterminant en nous chrétiens. Souvent, et c'est notre expérience à tous, ce que nous avions fait était juste. Souvent, on fait des choses justes. On peut discuter, mais c'est bien ce que je fais, il n'y a rien de mal. Les enfants le disent, hein, j'ai rien fait de mal. Toutefois, nous avions le sentiment que quelque chose nous condamnait intérieurement, même quand on faisait des choses bien. Pourquoi ? Non parce que d'une manière ou d'une autre, nous aurions pas bien fait les choses. Non, simplement parce que Dieu dit, même cette chose bien que vous faites, elle ne vient pas de moi. Parce qu'elle vient de la chair, elle ne vient pas de l'esprit. Dans 1 Corinthiens que nous avons lu tout à l'heure, je vous ai lu tout à l'heure, Paul parle de l'édification et parle de l'œuvre de chacun. Plusieurs, dit-il, bâtissent dans de l'or, hein, dans de l'argent, des pierres précieuses, d'autres par contre avec du bois, du foin et du chaume. Ouais, dans 1 Corinthiens chapitre 3 et dans les versets, on va dire de 1 à 12. Quoi. Quelle est la différence entre une œuvre faite en or, en argent et en pierre ? Je crois que dans la Bible, même la virgule a un sens, dans la langue originale. Le mot a un sens. Si l'Esprit Saint a inspiré pour utiliser ces mots, c'est pour un objectif bien défini. La différence entre une œuvre faite en or, en argent et en pierre précieuse et une œuvre faite avec du bois, du foin et du chaume. Dans la parole de Dieu, l'or, l'argent et les pierres précieuses représentent tout ce qui vient de Dieu. L'or symbolise la gloire de Dieu, la gloire du Père. L'argent représente l'œuvre de rédemption du Fils. Et enfin, les pierres précieuses qui ont été produites dans la terre à la suite d'une transformation sous l'action de la pression et de la chaleur marquent l'œuvre de transformation et d'édification du Saint-Esprit en chacun de nous, c'est-à-dire le chrétien. L'œuvre faite avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses n'est produite que par la gloire éternelle, à travers la croix du Fils et à travers l'œuvre transformatrice, édificatrice du Saint-Esprit. Quant au bois, foin et chaume, vous voyez, les deux se trouvent dans la même église, voilà, tous des chrétiens. Le bois, le foin et le chaume, chacun de ces éléments décrit ce qui vient de l'homme lui-même, qui disparaîtra. La gloire de l'homme est comme l'herbe, sa nature ressemble au bois et ce qu'il produit est comme de la paille. L'or, l'argent et les pierres précieuses sont une image de ce qui vient de Dieu. En revanche, le bois, le foin et le chaume sont une image de ce qui vient de l'homme. Il y en a un qui dure plus longtemps que l'autre. L'or, l'argent et les pierres précieuses ne se retrouvent pas sur la surface de la terre, mais enfouis profondément dans la terre. C'est pourquoi il faut beaucoup creuser pour atteindre ces matériaux. Le bois, le foin et le chaume poussent par contre à la surface de la terre. Et ils sont faciles à atteindre. C'est pour ça que nous préférons la facilité. Prenons l'exemple de l'humilité. Il y a une différence entre se montrer humble et d'être humble. Pour vous, peut-être, ce n'est pas grand-chose. Se montrer humble, je fais tout pour être humble. J'utilise l'âme pour être humble. Alors que le chrétien, régénéré, il n'a pas besoin. Il est humble, tout simplement. Il n'a même pas besoin de se poser la question. Je dois être humble. Non, les autres remarquent qu'il est humble. Vous voyez la différence ? Quand ça vient de l'âme, il faut. Quand ça vient de Dieu, ça se vit naturellement. Il y a l'humilité humaine issue d'efforts personnels et l'autre humilité, Christ, en nous. Parce que l'humilité, c'est Christ. Quand Dieu produit l'humilité dans un homme, une telle personne est simple et simplement humble. Et ceci véritablement, sans qu'elle en soit elle-même consciente. Et souvent, on lui dit, mais qu'est-ce qu'elle a changé ? Elle est toute humble. Ah bon? Vous avez remarqué ça, vous? C'est différent. Je suis chrétien. Je dois témoigner de mon humilité. Ça, c'est la chair. Tous ceux qui s'approchent, alors elles peuvent reconnaître l'œuvre de Dieu en elles. Celui qui se poudre doit constamment se regarder dans un miroir pour s'assurer de son maquillage. Sans en être du tout conscient, Moïse avait un visage qui rayonnait. Et c'est les autres de son peuple qui le voyaient, son visage rayonnait. Ils ne s'en rendaient même pas compte. Au point qu'il fallait cacher son visage. Un chrétien n'a pas besoin de faire des efforts pour être humble. Il est tout simplement humble. C'est ça la vie dans l'âme et selon l'esprit. Ne croyons toujours qu'en tout et pour tout, avec un comportement correct, nous en avons déjà assez fait envers Dieu et nous continuons à faire nos efforts. Et pourtant, Dieu s'enquiert uniquement à l'origine intérieure des choses, de notre comportement, de sa source. Posons-nous toujours la question, ce qui est produit en nous vient-il de Dieu ou de nous-mêmes? Il y a tant de personnes qui s'efforcent, par exemple, d'être patientes. D'autres, pendant ce temps-là, simplement, elles sont patientes. Sans en être conscientes. Dans le premier cas, la source est l'homme lui-même, tandis que dans l'autre, c'est Dieu. C'est en cela uniquement, et non pas dans l'apparence extérieure, que réside toute la différence. Mais là, je dis un mais. Néanmoins, je dis, néanmoins en majuscule. Nous devons voir aussi que si des choses telles que la patience ne nous demandent aucun effort, il y a des fois, il y a des gens qui sont des personnes douces, patientes. Cela ne veut tout de même pas dire qu'elles proviennent de notre esprit. Je fais quand même une mise en garde. Beaucoup de personnes sont douces de nature. Cependant, un jour, elles devront reconnaître subitement que leur propre douceur n'a rien à voir avec celle du Seigneur. D'autres qui possèdent un amour humain naturel découvrent un jour ou l'autre, que l'amour qu'elles ont toujours est complètement différent de l'amour du Seigneur. D'autres sont des gens empreints d'humilité, mais ils découvriront un jour que l'humilité que le Seigneur veut produire en eux est totalement différente de la leur. C'est pour ça que notre nature, avec son bon côté, son mauvais côté, doit passer par la croix, c'est-à-dire mourir à tout notre être, le bon côté, le mauvais côté, pour que Christ soit en nous une nouvelle stature, une nouvelle nature. Souvent, on dit que le chrétien doit abandonner le mauvais et garder le bon. Christ nous dit, même le bon, tu dois l'abandonner, parce qu'il doit être selon ma volonté. Une disposition innée peut devenir facilement le substitut de la réalité spirituelle. Oui. En fait, nous confondons très souvent ce que Dieu devrait encore produire, œuvrer en nous, avec nos bonnes dispositions, ce que nous avons. Nous voulons garder ce qui est bon en nous et rejeter ce qui nous paraît mauvais. Le Seigneur dit, je veux tout de vous. Y compris ce que vous paraît bon. C'est ça l'œuvre de la croix. Ça va très profondément. C'est pourquoi nous devons constamment nous rappeler que rien de ce qui vient de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre âme, bon ou mauvais, n'est divin. Ce n'est que ce qui vient de notre esprit qui a été produit par Dieu, c'est-à-dire l'esprit qui habite en nous. Mais l'homme le plus doux de nature expérimentera un jour comment la tentation de se mettre en colère vient simplement balayer sa douceur naturelle. Oui. Chacun atteindra un jour les limites de sa propre douceur. Pareillement, chacun arrivera tôt ou tard à la fin de sa patience. La force humaine est limitée. Mais la force que nous est donnée par Dieu est différente. Elle est radicalement différente de notre propre force. Tôt nous réalisons nos limites, tôt le Seigneur agira en nous. Plus nous sommes convaincus que nous avons quelque chose de bien en nous, plus le Seigneur patientera. Je dis patientera, il n'abandonnera pas, mais seulement c'est du temps. Watchman Nee, un homme de Dieu chinois, écrit ceci. Il ne m'est pas donné d'accomplir moi-même ce que le Seigneur peut faire. Et même si j'étais capable de faire une chose, par exemple de rester patient dans une certaine situation, ce n'était pas moi qui étais patient, mais bien plutôt le Seigneur qui agissait en moi. Il faut arriver au point de dire, si je suis patient, c'est Christ qui est patient en moi, pas moi. Après coup, j'ai pu m'étonner de la manière dont les choses se sont passées et me demander qui, au fond, a été patient. En définitive, je n'ai pu que louer et remercier le Seigneur et lui confesser ceci. Seigneur, je n'ai moi-même absolument aucune patience, mais je te loue et je te remercie de ce que tu es ma patience. Tu es celui qui est patient en moi. C'est complètement différent. C'est seulement ce que le Seigneur produit. Ce n'est que ce qui vient de notre esprit qui est spirituel. Comment, et je termine, comment pouvons-nous alors reconnaître ce qui est psychique, c'est-à-dire de nous-mêmes, et ce qui est spirituel? Nous devons être au clair qu'il ne nous est dans tous les cas pas si facile de juger d'après l'apparence extérieure, même en ce qui nous concerne. De plus, le résultat ne s'améliore pas si je m'applique à me demander constamment si ce que je fais à l'instant vient de l'âme ou de l'esprit. Une telle introspection et un autocontrôle permanent sans aucune valeur spirituelle et que je dénonce personnellement et qu'on rencontre dans les églises l'auto-évaluation spirituelle. Ça ne vous arrive pas quand on vous pose la question, vous en êtes où spirituellement? Mais c'est terrible comme question. Moi, ça me met hors de moi quand on pose la question. Comment je peux m'auto-évaluer spirituellement? En fait, en posant la question, on est en train de donner les armes à notre âme pour la ressusciter. Jugez-vous vous-même par vos capacités humaines si vous êtes spirituel ou pas. Mais c'est le piège qui se referme. Mon âme ne peut pas juger de mon spiritualité. Je n'ai pas à me juger, elle est crucifiée. Et si je commence à me juger, la réponse est que je ne suis pas spirituel. Parce que si je suis spirituel, je ne m'auto-évalue pas, c'est les autres qui me regardent. Si je commence à me regarder, c'est qu'il y a un problème. Et ça, c'est souvent, on l'entend, s'auto-évaluer. Nous devons voir que les choses de l'esprit ne s'ouvriront jamais à nous par de telles remises en question, recherche et analyse. De plus, nous ne pourrons jamais vraiment voir ces choses par de telles méthodes ou par nous-mêmes. C'est ressusciter notre nature qui est morte. Le vrai discernement spirituel vient plutôt de l'éclairage divin. C'est quand la lumière de Dieu vient sur nous que nous voyons spontanément. Vous voyez, tout vient de lui, par lui et pour lui. C'est pourquoi nous devons cesser de nous laisser tourmenter en nous demandant si nos actions présentes sont charnelles ou spirituelles. Prions simplement pour que sa parole pénètre vraiment en nous et qu'elle nous éclaire. Cette parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée, à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Dès que cette parole nous atteint véritablement en profondeur, dans notre être intérieur qui est créé pour cela, nous discernerons, nous verrons ce qui est de l'esprit et ce qui est de l'âme. Et même plus, ce sera comme si c'était une personne qui, en nous jugeait, discernait et dont le jugement a plus de poids que tous les jugements des hommes. C'est ce qu'on appelle la maturité spirituelle. C'est un genre instinct spirituel qui s'acquiert par l'expérience, par les épreuves, porter sa croix, notre transformation, métamorphose, suivre le même chemin que le Seigneur a suivi, pas spécialement sur la croix, mais sur la vie de tous les jours. Par exemple, vous êtes en train de commencer quelque chose lorsqu'une voix intérieure vous dit « Cela n'est pas juste ». Et dans une autre occasion, cette voix vous dit « Ce n'est pas assez profond ». Ou encore, alors que vous êtes au bureau, au milieu des conversations, dans votre salon, quelque chose vous rappelle au fond de vous-même, ne dites pas cela, demandez pardon, c'est pas bien ce que vous faites. Cette force de discernement travaille à l'intérieur du chrétien et n'est absolument pas influencée par l'extérieur. C'est quand nous voyons de l'intérieur que nous voyons véritablement, certainement, c'est Dieu qui nous parle. La seule chose qui soit déterminante et qui signifie quelque chose, c'est notre discernement intérieur. Et c'est une éducation avec le Seigneur si nous le laissons nous éduquer. Que le Seigneur nous accorde sa grâce pour que nous recevions cette lumière intérieure, afin que nous puissions voir et discerner intérieurement les choses. Le chemin est long, le chemin n'est pas facile, il peut prendre des mois, des années, toute une vie. Mais l'aboutissement, c'est la maturité spirituelle, c'est être capable de discerner cette voix qui nous parle. Et en même temps, être capable de laisser la croix nous transformer. C'est la condition de base pour qu'un chrétien devienne capable de discerner. Il faut que notre âme et notre esprit soient séparés. On ne parvient pas à cette séparation, ni à aucune aptitude à discerner par la connaissance, par le savoir, je veux dire, par la religiosité, par les apparences, par les responsabilités, par l'argent, par la dîme, tout ce qu'on veut, mais uniquement par un éclairage intérieur que la Bible appelle révélation. Ça vient de Dieu. Dans l'esprit, dans notre être intérieur. Notre prière, c'est que la parole de Dieu pénètre tellement en nous qu'elle brille en nous et nous montre clairement ce qui est dans nos œuvres, dans notre vie, vient de notre âme, bon ou mauvais, et ce qui vient de Dieu. Et c'est ça qui compte, c'est toute une éducation d'une vie dans la communion avec le Seigneur. Amen.